On va passer à autre chose. Alors, si vous avez terminé, on va revenir sur une histoire pédagogique un peu ancienne maintenant, autour de l'école Bonaventure, hein, qui a été une petite république. Pardon ? Attends, on n'a pas compris.
Nos élèves, tu parles ? À quel âge ils ont ? Alors, ça dépend. Ça dépend. Moi, je suis en collège, donc ils ont jusqu'à 14-15 ans. Mais
en fait, ouais.
On est sur de la maternelle jusqu'à l'université.
Aussi. De la maternelle jusqu'à l'université.
Bah oui. Voilà. Bien, donc, je disais que Jean-Luc allait venir. Jean-Luc, alors, n'est pas intervenu directement à l'école Bonaventure, mais a fait un gros travail de recherche sur les archives de l'école et va à la fois produire un livre avec sa compagne sur cette question-là et va revenir sur un certain nombre de choses qui ont fait fonctionner l'école, le projet de l'école et pourquoi République éducative. Vas-y.
Bien, bonjour. Effectivement, je n'ai pas participé en tant qu'acteur à Bonaventure, mais je vais vous en parler, vous allez comprendre pourquoi. Je me disais, si, imaginons, Sébastien Faure ou Paul Robin écrivaient dans Le Monde Libertaire 2-3 articles, là, et vous disaient, mais on va créer une école à 500-600 km de Montreuil, vous seriez partant pour aller voir ce qui s'y passe et pour y participer d'une façon ou d'une autre. Je vous pose cette question parce qu'en 92, 3 articles sont parus dans Le Monde Libertaire. Vous étiez peut-être abonné. Bon, c'est vrai, c'est pas Paul Robin, c'est pas Sébastien Faure qui signait, c'était Jean-Marc Reynaud et Thi de Rossel. Et ils ont argumenté et parlé d'un projet, d'une école à 500 ou 600 km de Montreuil. Alors, donc, c'était en 92, l'école n'a ouvert qu'en 93. Et puis, elle a fermé, bien sûr, 8 ans après, mais quand même, 98 ou 99 ans après La Ruche et son puits, Bonaventure a existé, a fait partie de l'histoire de l'éducation libertaire. Donc, c'est une enquête que nous avons menée récemment avec ma femme. Il y a 2 ans, nous avons rencontré Thi et Jean-Marc pour d'autres raisons que Bonaventure, pour parler livres, en fait, et maisons d'édition, se rencontrer entre maisons d'édition. Et puis, parlant de Bonaventure, dont j'avais entendu parler quand même avant, on s'est dit quand même 8 ans, ça a duré 8 ans. Il fallait vraiment un groupe anard important, convaincant, pour mener cette affaire. Et puis en fait, non, on avait tort. Il n'y avait pas un groupe anard important. Il n'y avait qu'une seule famille en septembre 1993 pour ouvrir cette école. Et puis, ils étaient convaincus quand même. Ils le sont toujours. Ils ont été convaincants puisque ils nous ont convaincus à nous de nous intéresser à Bonaventure. Ils nous ont donné envie d'aller voir un peu plus près cette histoire-là et surtout d'écrire un bilan qui devait être écrit en 2001 alors que Bonaventure s'arrêtait et le travail n'ayant pas abouti, on s'est dit pourquoi pas. On avait un peu l'habitude, si on peut dire, rapidement avec ma femme de faire ce type de travail à partir d'archives et d'enquêtes par entretien. Et évidemment, on était un peu dans un monde que l'on connaît. Donc voilà, je suis enseignant-chercheur, mais j'ai eu une carrière dans le travail social et l'animation avant. Et puis nous avons publié avec mon épouse quelques travaux. Et là, avant de vous parler de l'enquête, je veux quand même vous dire ce que l'on a trouvé, ce que l'on a appris de Bonaventure. Alors, je sais que c'est un peu difficile pour moi parce que dans la salle, il y a des personnes qui ont connu Bonaventure. Il y a la fondatrice également. Donc, je vais essayer de faire attention à tout ce que je dis parce que nous n'avons remis le manuscrit qu'après l'avoir écrit. On n'a pas été sous contrôle par rapport à ce travail. Donc, voilà. Et puis, prochainement, il sera publié aux éditions Libertaire. Bon, en fait, on s'est aperçu, en plus, alors qu'on venait pour enquêter sur une école à l'île d'Oléron, que ce n'était pas une école. Donc là, on était un peu surpris. Bien sûr, il y a un volet scolaire, un volet école, mais Bonaventure, c'est plus qu'une école. Et donc, on l'a appris en lisant. Et on a bien compris qu'il y avait un rejet, alors de... Le vocabulaire, vous le connaissez certainement, des fondateurs et de Jean-Marc Reynaud, un rejet des abrutissoirs que sont les écoles d'État et d'Église, un rejet logique, on est quand même dans le monde des anars, un rejet de cette éducation républicaine, normative, transmissive, traditionnelle, etc. Et ils conçoivent en 92, et pour cela ils animent un groupe de parents, hein, une quinzaine de personnes pendant quelques mois, 23 réunions quand même avant l'été, 30 dans l'année, mais 23 avant d'ouvrir l'école. Ils animent des groupes de discussion en soirée chez eux, etc. Hein. Bon, et ils conçoivent un service public d'éducation laïque, gratuit. Alors, c'est bon, qui, par commodité de langage, va s'appeler une école. Par commodité de langage. Bon, d'accord. Cette alternative éducative libertaire Bonaventure, à la couleur donc, et le goût d'une école, mais ce n'en est pas une, puisqu'il se revendique être un centre d'éducation libertaire, et même plus qu'un centre d'éducation libertaire, une petite république éducative. Alors évidemment, vous l'avez compris, et puis de toute façon, si vous me posez des questions inquiétantes, je donnerai la parole à Tide, mais moi, c'est sous toute réserve, mais l'idée de république, si le mot ne vous plaît pas, c'est un pied de nez à la république d'État, bien sûr. Et donc, s'il parle de citoyenneté de citoyens, c'est également non pas les citoyens de cette république d'État qui est rejetée comme l'État, mais c'est bien la citoyenneté de cette petite république qui va s'appeler Bonaventure. République pourquoi et citoyen pourquoi? Parce qu'à travers des apprentissages et des situations d'apprentissage qui suscitent l'esprit critique et l'émancipation, ils vont, alors je préfère d'ailleurs dire, je le dis tout de suite, l'auto-émancipation, c'est ce que l'on écrit, nous. Ils suscitent l'auto-émancipation par les situations éducatives qu'ils mettent en place. Et donc, loin de la conformation au modèle dominant, ce qu'ils vont chercher, c'est associer un ensemble d'éducateurs, d'éducatrices, de partenaires importants, je vais y revenir, de familles et d'enfants à un projet où l'esprit critique et l'auto-émancipation sont mis en avant, mais dans un esprit de coéducation. Alors la dimension sociale de Bonaventure, eh bien, ce sont plusieurs types de familles, de milieux socioprofessionnels différents. Et dans les familles qui ont fait le voyage, vous n'y étiez peut-être pas, mais si, il y a certaines personnes qui y sont allées. Dans les familles, il y avait d'abord les familles installées telles que la famille des fondateurs. Ce n'étaient pas les seules qui ont pu mettre leur enfant à Bonaventure. Mais là, ce sont des familles installées sur place. Il y a des familles déplacées, notamment pas mal de camarades libertaires de la région de Lille qui, à un moment donné, sont venus du continent pour leur idéal éducationniste pour leurs enfants et pour eux-mêmes, et qui sont venus s'installer sur l'île et mettre leurs enfants à Bonaventure. Il y a également un troisième type de famille. Ce sont des familles dont les enfants ont été certainement cassés par le système scolaire traditionnel, hein, ont été en échec, se sont retrouvés en échec scolaire et en difficulté dans le système traditionnel. Et donc, c'est le pari de la dernière chance pour leurs gamins qu'ils mettent à Bonaventure. Et puis, il y a d'autres familles, on en parlera ensuite, qui sont arrivées tardivement, mais qui sont des familles beaucoup plus intéressées par centrées sur l'école, centrées sur leurs enfants et sur du développement personnel et de l'éducation, pour le dire vite, positive, voilà, mais pas pour le projet politique et de Bonaventure dont je vais vous reparler, bien sûr. Alors la dimension sociale de Bonaventure, c'est aussi toutes les équipes qui ont pu travailler, des éducateurs, éducatrices au sens du générique du terme, mais qui regroupent des instituteurs, institutrices, des animateurs, animatrices, formés ou pas, mais ayant de l'expérience, qui regroupent également une éducatrice jeunes enfants, par exemple. Mais ce sont aussi des personnes intervenantes, occasionnelles, de fédérations d'éducation populaire notamment, ou des artistes, ou des animateurs en formation, aussi des stagiaires, tous les congressistes, les personnes qui ont participé chaque année au congrès de Bonaventure, venues de l'extérieur, et puis également les personnes qui ont soutenu Bonaventure financièrement, puisque c'est une alternative gratuite pour les familles et pour les enfants, mais qui bénéficiait de soutien et de souscription au niveau une solidarité, on va dire, comme il a pu exister une solidarité ouvrière pour la ruche de Sébastien Faure. Il y avait des sympathisants qui, effectivement, tous les mois, se souscrivaient. Alors, dimension sociale et spatiale également, je n'en reparlerai pas après, donc je le dis tout de suite, c'est aussi tout le réseau, tout le rhizome, si vous préférez, parce que les liens sont forts, mais en même temps ils sont libres, tout le réseau de partenaires, qu'ils soient éducatifs, des collectifs éducatifs, qu'ils soient des collectifs associatifs, je pense à des personnes qui représentent ici l'ICEM, le GFN, les CMEA, évidemment, l'éducation populaire, les syndicats, la tendance intersyndicale de l'école émancipée, la CNT, bien sûr, auxquels les fondateurs, eux, en tous les cas, et quelques acteurs de Bonaventure, pas tous, ont pu participer concrètement. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé avec, mais également ils ont lutté avec ces mouvements et ces syndicats. Les fondateurs venant du milieu éducatif, donc ayant une légitimité éducative, on va dire, mais en même temps étant avec Bonaventure à la marge du service public, puisque Bonaventure n'a pas été une école sous contrat ou hors contrat, on en reparlera. Et puis, dimension spatiale, c'est important aussi pour cette petite république qui n'est pas restée dans les limites de la France métropolitaine, puisque en dehors de l'implication locale avec le village où est implantée l'école, pour les fêtes d'année, pour le carnaval, ou d'autres villages pour une exposition sur un sujet particulier, en dehors du local, il y a également une action de Bonaventure permanente pendant les 8 ans d'existence au niveau national, avec les classes transplantées, avec des rencontres, des visites ou bien des séjours en Ariège, mais également par l'accueil de groupes libertaires qui accueillaient les personnes venant parler de Bonaventure et discuter d'éducation libertaire. Donc il y a vraiment un réseau important au niveau local, national et international, puisque Bonaventure s'est permis des voyages, de formation dans les deux sens, que ce soit en Italie, en Belgique, mais aussi au Sénégal, où là, il y a vraiment une relation étroite avec une association sénégalaise d'éducation. Et ils sont allés se former et aussi former les personnes là-bas. Quand je dis « ils », ce sont les éducateurs et les élèves de Bonaventure qui ont fait ces séjours au Sénégal et qui ont reçu également des Sénégalais ici. C'est une part importante de leur travail. Alors, pour cette enquête, en fait, on a déconstruit cette histoire que l'on ne connaissait pas. Il a fallu se pencher sur pas mal de documents, des kilos de documents, on va dire, d'archives, et rencontrer des personnes et comprendre l'histoire. Mais on a bénéficié également, évidemment, d'ouvrages. Il y a eu deux ouvrages de la part des praticiens-chercheurs pendant l'existence de Bonaventure, 2 ans et 5 ans après l'ouverture. Les 2 ouvrages ont été republiés et rassemblés dans celui-ci en 2022. Alors là, c'est intéressant parce que ce sont les praticiens-chercheurs qui écrivent. Et les praticiens également, les intervenants extérieurs. Quand je dis praticiens-chercheurs, parce que les fondateurs ont toujours eu ce souci, et notamment les 2 instituteurs, institutrices qui ont assuré les 5 premières années ont eu le souci d'être toujours en recherche-action, en formation, et ont toujours motivé les équipes à écrire. Et pas que les équipes, mais également les personnes qui venaient de l'extérieur et qui apportaient des regards extérieurs sur cette alternative qu'ils avaient pu rencontrer, sur le vécu qu'ils avaient pu avoir pendant leur stage ou leur visite. Donc on a bénéficié évidemment là d'une mine, et puis également tous les comptes rendus de réunions, de congrès, des comptes rendus manuscrits, une littérature grise qui n'est pas sortie, qui n'a pas été publiée, mais également, alors ces archives-là, ces films, ces photos, nous les avons récupérées bien sûr dans les locaux de l'école qui existent toujours, et puis auprès d'un enseignant qui est extérieur, alors auprès des fondateurs bien sûr, et puis auprès d'un enseignant qui est extérieur, qui nous a confié, on a rencontré 20 de personnes pour cela aussi, pour des entretiens, dont des jeunes qui ne sont plus jeunes, mais qui sont passés par Bonaventure, je le redirai. Et puis nous avons reconstitué l'histoire, et nous l'avons fabriquée en 5 périodes différentes. Je vais vous passer en revue ces 5 périodes rapidement, mais qui sont détaillées dans l'ouvrage qui paraîtra, bien sûr. Alors les 2 ouvrages sont complémentaires. Nous sommes extérieurs et nous avons fait œuvre de micro-sociologie, si vous voulez, hein, en nous attachant aux détails, en ne reproduisant pas la valorisation de toutes les expériences concrètes, pédagogiques qui sont là-dedans, même si on parle de ce que j'ai pu entendre aujourd'hui de façon hyper intéressante sur les techniques et les outils pédagogiques. Mais là-dedans, vous les avez. On en parle, mais on ne développe pas tout cela. On développe beaucoup plus l'organisation Bonaventure. Et au fond, on essaie de répondre à notre question, en espérant que ce sera celle des lecteurs. Comment une telle alternative, en plus libertaire, en plus laïque, en plus gratuite, en plus qui a pu fonctionner, comme elle a pu fonctionner pendant 8 ans, sans que l'État réprime, comme il le fait actuellement, pour des expériences qui, elles, sont publiques et qui existent depuis beaucoup plus longtemps. Première période, c'est la période avant l'ouverture de l'école, puisque Bonaventure, ce n'est pas qu'une école, ce sont aussi des personnes, des relations entre des personnes et des groupes. Et c'est une relation entre un contexte, en fait, des personnes et des expériences. Et évidemment, on s'attache aux fondateurs, parce qu'ils ont eu cette folie, reconnaissons-leur, de vivre l'époque post-68, post-70, foisonnante d'expériences éducatives. Je ne parle que de celles-là, mais ce sont des militants anarchistes bien impliqués. Et donc, ils ont aussi eu des expériences qu'ils relatent, hein, quand ils ont des entretiens, et qui sont importantes. Exemple, des expériences de colonies autogérées, et qu'ils ont pu appeler les chapées belles, qui ont fonctionné pendant plusieurs années. Alors, pas qu'à l'île d'Oléron et pas qu'avec des gens de l'île d'Oléron, loin de là, mais au niveau national et sur le continent. Ils ont eu une expérience fabuleuse. Alors, je passe rapidement, mais il y a des écrits là-dessus, sur les chapées belles notamment. Il y a un bouquin. Mais il y a également une expérience forte qui est l'île aux enfants, qui est une expérience de crèche autogérée, la première crèche autogérée sur l'île d'Oléron. Et c'est de là que certains parents étaient mobilisés par rapport à l'école ensuite de Bonaventure. Ils ont eu une expérience aussi forte. Toutes les expériences sont fortes avec eux. Non, je suis désolé, c'est pas pour... On a essayé de ne pas être... de mettre à plat nos a priori, hein, par rapport aux fondateurs et par rapport à Bonaventure, pour ne pas être complaisant et pour ne pas être laudatif ou esthétisant par rapport à cette histoire-là. Mais on ne peut pas nier que mener de telles expériences demande beaucoup d'énergie, ça a été dit ici aussi, beaucoup d'enthousiasme et un peu de folie quand même, hein, parce qu'on se demande comment ils ont pu résister ensuite à ce qu'ils ont pu vivre. Mais en tous les cas, la troisième expérience, c'est Bout de ficelle, c'est un lieu de vie. Un lieu de vie d'accueil familial pour des enfants placés. Vous savez, je ne détaille pas sur les difficultés que présentent des adolescents qui sont placés souvent, et ils ont tenu ce lieu de vie également qui a soutenu Bonaventure, l'association Bonaventure et ensuite l'école. Et donc cette première période, eh bien, c'est toute la période avant d'ouvrir la première classe. Donc tout le travail fait avec des parents, des personnes qui ne sont pas du tout dans le milieu anarchiste et qui ont des enfants qui vont réfléchir à l'éducation, quelle éducation pour nos enfants après la crèche. Et après une année de maternelle, c'est un peu ce qui s'est passé, hein, il y a eu un petit laps de temps. C'est une forte initiative, et en plus, les fondateurs ont écrit une brochure, un avant-projet, dont ils ne parlent pas là-dedans, mais qui est disponible, évidemment. Et ils ont écrit un avant-projet pour dire comment ils voyaient cette école autogérée sur l'île d'Oléron, avec des chalets démontables sur un terrain qui pourrait être utilisé collectivement, bon, etc., etc. Alors, entre l'utopie discutée le soir entre amis, bientôt, autour d'une table et de verre, et puis le lendemain, il y a quelques heures qui passent, et c'est un peu difficile, le réveil, parce qu'effectivement, entre fin 92, avec ces articles dans Le Monde Libertaire et les réunions qui ont eu lieu, et puis le début de l'été, il ne reste plus que deux familles sur les 15 qui discutaient à un moment donné, qui étaient partie prenante, deux familles prêtes à s'engager, donc trois enfants prêts à s'engager pour l'école. Que faire? Ils ne savaient pas compter, je ne sais pas, mais ils ont continué. Et puis, l'été leur a permis de bâtir une charte importante qu'ils ont travaillée avec tous les gens de passage et qui a donné lieu. Cette charte a existé pendant les 8 ans, n'a pas été retouchée. Et en fait, c'est le commun qui fait que toutes les personnes qui sont venues à Bonaventure pour mettre leur enfant, hein, dans cette scolarité alternative, s'accordaient à la charte, en fait. Donc ça, c'est important. Et puis, ce qui est important, c'est que septembre, c'est l'ouverture de l'école, et il y a 7 enfants dans une maison louée dans un village. Donc de 3, ils sont passés à 7. Ils ouvrent, bien sûr. Donc ça, c'est important. C'est la deuxième période, l'ouverture avec une institutrice et puis une éducatrice qui a de l'expérience, qui est militante. Bon, je passe sur tout cela. On a, c'est une période de fondation de l'école et de vraiment de création de tout ce qui va se mettre en place. Mais Bonaventure n'a pas, même si l'institutrice est expérimentée, formée, spécialisée, Bonaventure n'a pas un livre de recettes et une méthodologie d'entrée de jeu, donc va construire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont construire autour d'une pédagogie expérientielle, hein, qui repose de façon inductive sur des projets et de l'animation. Et l'activité scolaire, bien, c'est une activité comme une autre, qui est secondaire. Et ils vont s'inspirer du mouvement freiné et de tout ce que la pédagogie freinée a pu leur apporter, également de la pédagogie institutionnelle, mais aussi de leurs partenaires que sont le LAP, par exemple, ou bien Vitruve, etc. Deuxième période, la création, la fondation. Merci à Jean Le Gall pour les conseils d'enfants, puisqu'ils auront aussi un conseil d'enfants. L'intéressant, que l'on ne trouve pas partout, c'est qu'il y aurait une supervision par des personnes extérieures de l'équipe pédagogique, et puis un accent fort sur la dimension institutionnelle. Alors, je ne vais pas passer les cinq périodes comme cela, parce que sinon, ce serait trop long. Et je vous invite à lire le livre. Mais première période, fondation. Deuxième, ben là, on renforce. Il y a une institutionnalisation de la petite république éducative. On met en place et on réfléchit à la question de l'évaluation aussi. Troisième période. Alors, je suis obligé de dire quand même que Bonaventure a été confronté à des contraintes, à des crises, à des difficultés. Je vais en citer deux ou trois, juste pour quand même ne pas paraître trop laudatif ou utopiste ou je ne sais quoi. La dernière période, l'avant-dernière période qu'a pu vivre Bonaventure, c'est le recrutement, après une institutrice et un instituteur qui, eux, étaient libertaires et étaient vraiment engagés dans cette pédagogie institutionnelle, expérimentale. Et c'est le recrutement d'une institutrice qui n'était pas militante et qui a opéré des variations, des glissements, et qui donc a annulé tous les regards extérieurs, a gardé un peu de quoi de neuf, sans trop être convaincu, je crois. Mais bon, donc des glissements, et puis finalement qui l'a bien reconnu qu'elle n'était pas militante et qui, au bout de deux ans, est toujours restée en tant que parent. Un nouvel instit arrive, c'est le dernier. Il reste cinq mois, il démissionne. Et cet instit, avec trois autres familles, prend en charge Bonaventure. C'est la dernière année. Pendant six mois, des parents sortent du projet libertaire complètement en connaissance de cause. Et puis, le dernier congrès qui va avoir lieu constate cela, ne peut pas le valider, bien sûr. Et comme il fonctionne au consensus, ils n'ont pas trouvé de consensus parce qu'en fait, certains étaient pour... Au fond, comme les fondateurs, je pense, étaient pour une école hors contrat, mais qui leur donnait un peu plus de sécurité, puisque Bonaventure a eu quand même des problèmes de ressources financières. À un moment donné, sur ces 8 ans, ils se sont vraiment battus pour avoir un autofinancement, mais ils n'ont pas eu de subvention. Ils avaient cette solidarité de financement. Les glissements et la prise en charge parentale n'étaient pas du tout dans le projet. Donc certains disaient il nous faut passer à cette école sous contrat, d'autant qu'ils ont subi en 99 l'intrusion d'un inspecteur qui, avec des remarques fortes et des pressions, obligeait Bonaventure à faire des choix. Des choix d'être beaucoup plus en règle, puisque jusqu'à présent c'était juste des parents qui déscolarisaient leurs enfants et qui les regroupaient au sein de Bonaventure, mais il n'y avait pas du tout de contrat avec l'État et une méconnaissance. Et d'autres donc, dans ce dernier congrès, dans cette dernière AG aussi en 2002, qui ont dit il faut que Bonaventure reste dans la clandestinité, on ne peut pas avoir de convention avec l'État, c'est complètement anti-libertaire, ce serait de la compromission, il faudrait même des instituts bénévoles, quelqu'un a pu dire. Devant cette irrésolution, devant cet embarras du choix, si on peut dire, ils n'ont pas relancé, ils n'ont pas réouvert Bonaventure par la suite. Et la cinquième période, je ne vous en parle pas, c'est une autre histoire, c'est d'autres projets. Je ne parlerai pas. Les difficultés, je termine peut-être avec les difficultés qu'ils ont pu avoir, elles sont autant externes qu'internes. Externes en 99 avec cette inspection et ces injonctions à se mettre en règle par convention. C'était l'époque où il y avait les pas mal de sectes qui se faisaient repérer pour... Voilà, et donc il y avait un regard fort de l'État sur les écoles. Difficultés externes, mais difficultés aussi internes, au niveau, comme j'ai pu entendre ici, d'autres le LAP, par exemple. À un moment donné, le collectif, le groupe se fissure, on va dire. Je ne parle pas de celui qui, un an après l'ouverture, part avec la moitié de la caisse. Bon, ça, d'accord. Soit des relations fusionnelles entre des personnes qui débordent, soit, à un moment donné, la difficulté de trouver un enseignant, très dur, de trouver un enseignant qui... ne connaît pas l'île d'Oléron, et malheureusement pour lui, parce que la plage... je dis quand même, malheureusement, il n'y a pas eu le recrutement d'enseignants qu'il aurait pu y avoir, mais surtout des conflits, à un moment donné, il y a eu, avec une animatrice, des conflits de rôles avec l'instituteur, dans une équipe réduite de 3 personnes, et des conflits de méthodes traditionnelles qui a voulu apporter... Voilà. Bon... Je vais clôturer là-dessus, juste à cause du temps, bien sûr pour le respecter, mais je dois dire en finale que les jeunes que j'ai pu rencontrer, qui sont passés par Bonaventure, qui aujourd'hui ont plus de 30 ans, et qui ont fait leur vie, qui ont des gamins, qui ont des enfants eux-mêmes, et qui... Je dois dire que j'étais étonné par la maturité, la dynamique de ces jeunes, la dynamique de vie qu'ils ont engagée, le regard qu'ils portent sur Bonaventure aujourd'hui. Ça marque des effets positifs de ce passage-là. Ce ne sont pas des militants anarchistes, ce n'était pas du tout le projet de Bonaventure. Hein. Vous avez bien compris qu'il y avait des libertaires, mais pas que. Il y avait aussi bien d'autres parents et familles qui se sont engagés bénévolement et qui ont participé, puisque les parents participaient également à Bonaventure. Ces jeunes-là, honnêtement, on peut dire que Bonaventure a suscité chez eux de l'auto-émancipation, de l'esprit critique, parce qu'ils ont un regard critique sur la société et ils sont très clairs par rapport à leur choix de vie, très authentiques dans ces choix. Merci, excuse-moi.
Merci à toi. Donc, Bonaventure a été une grande aventure. On va dire ça comme ça.
Je crois. Une belle aventure.
Une belle aventure. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des compléments sur cette aventure-là? Sachant que... Oui, je te donne la parole tout de suite. Le livre sort quand?
Bientôt.
Et il sera disponible à Publico, donc vous inquiétez pas.
Bon, en attendant, il y a celui-là, avec une préface de Jean-Marc qui... actualise un peu.
Merci d'avoir écrit sur Bonaventure quelques années après, parce que je partage avec toi le fait que ça a été quelque chose de vraiment fondamental. Ouais. Et à la fois pour moi, au niveau personnel, c'est quelque chose qui a permis aussi de faire mon engagement quelques années après au LAP, et à la fois au niveau plus historique, je pense que ce qu'ils ont écrit, tu parlais du pré-rapport dans l'année 92, où le nombre de réunions qui ont été posées dans ces années-là, juste avant l'ouverture, c'était vraiment des réunions qui avaient à la fois une critique de l'école qui manque, une critique sans concession, et comme tu l'as dit, un projet un peu fou, un peu utopique de faire radicalement différemment, et je pense que ça a joué. J'avais envie de revenir sur un des aspects que tu as évoqué, je ne sais plus si ça s'appelait exactement comme ça, Commission Regard Extérieur ou autre. Le congrès Bonaventure donnait chaque année des membres de commission, et dont je crois que ça s'appelait comme ça, Commission Regard Extérieur, qui venaient passer quelques jours pour préciser et voir des choses. Donc il y a eu un certain nombre de crises. Moi je m'étais proposé, mon camarade Jean-Luc qui était au LAP, qui m'a dit ce serait pas mal d'aller voir ce qui se passe à Bonaventure, parce qu'ils ont l'air d'avoir des difficultés. C'est ce que tu évoquais entre l'instit et l'animatrice, et c'est vrai que c'était une période très compliquée, et à la fois donc ça m'a permis de voir quelques jours comment ça fonctionnait dans le vrai, et ce que tu constates, c'est-à-dire que moi je commençais à bosser au LAP à l'époque, et quand je suis revenu j'ai dit aux élèves, j'ai assisté à un conseil d'enfants, franchement chapeau, parce qu'ils s'écoutent 10 fois plus que vous là en GB, et il y avait vraiment un truc sur l'écoute et sur la réflexion, sur l'esprit critique que ça développait, et à la fois il y avait cette vraie crise à gérer. Alors je crois que ce que j'avais produit, un petit texte qui a été, parce qu'il y avait plein de trucs interpersonnels qui étaient compliqués, et ça joue fortement, donc j'ai dû être piètre regard extérieur parce que ça n'a pas permis d'être tellement avancé. Mais je pense que cette dimension, elle n'est pas présente dans beaucoup de structures alternatives, d'avoir à la fois une analyse de l'intérieur et des personnes sympathiques de l'extérieur qui viennent passer vraiment du temps et qui réfléchissent. C'est quelque chose qui, moi, m'avait frappé et que je pense qu'il est vraiment un apport important et qu'on pourrait reproposer dans pas mal de lieux collectifs.
Voilà, donc je me déplace toujours. Dominique, tu vas être concis comme tu sais le faire. C'est pas de la censure, mais on est à la bourre.
Oui, Dominique, j'ai participé à l'expérience de Bonaventure, notamment par une période de participation active aux colos de Tonton Bakounine, qui ont pris le nom après d'Échappée Belle, où j'ai constaté que finalement, ce que proposaient Jean-Marc et Tid, c'est que le mouvement anarchiste, qui a d'excellentes idées, essaye quand même de faire des propositions de mise en acte. Et encore aujourd'hui, quand on cherche à valoriser les idées anarchistes, on passe tout de suite à l'expérimentation en disant, voilà, on va faire des alternatives anarchistes en acte. Eh bien là, c'est ce qui s'est fait. Et je tiens à remercier Jean-Luc parce que, comme il dit, il n'a pas vécu. C'est quelqu'un d'extérieur. Et je me retrouve tout à fait... Mais alors vraiment tout à fait dans l'analyse et ce qu'il rapporte. Et je trouve ça bien, parce que c'est bien bon, pour lui qui a pu faire ce boulot-là, mais pour nous aussi, parce que ce qui va rester de l'analyse de ce qui a été tenté, eh bien, c'est ce que tu vas mettre certainement. J'ai hâte de lire le bouquin, ce que tu vas mettre dans ce bouquin-là. Et franchement, bravo, merci.
Merci bien, Pascal. J'ai lu ton texte, c'est Pascal, hein. J'ai lu ton texte, hein. On en parle dans le bouquin qui arrivera. Le bouquin devrait s'intituler Bonaventure, une utopie libertaire en acte, point d'interrogation. Et donc je reviens sur en acte. J'ai entendu beaucoup de choses aujourd'hui fort intéressantes, je ne commente pas, sauf que quand même, Bonaventure, ils ont toujours tenu à dire que la pratique pédagogique éducative était un instrument au service d'un projet politique. Et ça, c'est important, parce que le projet politique et social, les derniers parents l'ont perdu. Ils ont perdu le contact avec le mouvement freiné, avec les libertaires, le Hanard, voilà. Et eux, c'était ça qui comptait en premier, quoi. Et c'est important de le rappeler, quoi, qu'il y a un projet politique. Les histoires après de techniques et d'outils sur lesquels de nouveaux enseignants pourraient être intéressés, c'est pas que c'est secondaire, mais en tous les cas, c'est au service d'eux.
Voilà, on va laisser la parole bien. Deux minutes à
oui,
Tid.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Et après, le temps nous presse bien un petit sûr. Peu, on passera à la parole de l'ICEM et je reviendrai pour présenter cela.
Oui, moi j'ai eu la joie de corriger, et à tous les chapitres, je me disais, mais qu'allait-il faire dans cette galère ? Que ce soit les mômes, hein, les parents, les éducateurs, les partenaires. Et à la suite de cette journée, je me dis toujours, mais que sont-ils allés faire dans cette galère ? À Vitru, Vola, Passanase. Bon, on ne sait pas ce qu'ils sont allés faire dans cette galère. Hein. Les camarades, ils ont simplement essayé de donner sens à leur boulot. Et à chaque fois, en tirant sur quelques fils, et c'est cette toile d'araignée qui donne sens. Et je pense vraiment que nous, on n'a pas de leçons à donner à Oléron, encore que, hein, faut pas déconner, hein, on a tenu 8 ans, dont 2 ans plus 2, ça fait 10, je suis désolée, il y a l'avant et l'après. Mais pour autant... On donne du sens à la vie de tous les jours avec les mômes, avec les familles et avec les voisins. Eh ben, c'est pas si mal que ça. On a passé une bonne journée à entendre tout ça et puis vous allez le lire.
Et moi, je vais te répondre. Ce qu'ils sont allés faire dans cette galère, c'est ramer.